Vous écoutez RTL.
RTL, il est 9h01.
RTL Matin.
Laissez-vous tenter.
Avec Yves Calvi.
Et nous avons le plaisir de recevoir aujourd'hui dans notre studio pour la sortie de son film et avec son comédien qui s'installe parmi nous, que je salue aussi, François Ozon pour la sortie de France.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Je salue Pierre Ninet qui arrive ponctuel à 9h01, mais c'est le moment où le générique démarre. Deux invités qui vont partager cette demi-heure avec nous. Nous sommes ravis de les accueillir l'un et l'autre. Le film France, François Ozon, sort mercredi au cinéma. Nous allons longuement en parler avec Stéphane Boutsock qui, comme moi, a beaucoup aimé cette histoire où le mensonge a le premier rôle. Nous vous ferons d'ailleurs gagner des places pour aller découvrir France au cinéma après-demain. Isabelle Morini-Bosque, elle, de son côté, parlera télévision et de la rentrée de France Télévisions avec pas mal de nouveautés à l'écran dès aujourd'hui. François Ozon et Pierre Ninet, vous rentrez de Venise où votre film France a été présenté en compétition officielle ce week-end. L'accueil de la presse française est globalement très bon. Ça s'est passé comment avec nos confrères italiens ?
Très bien aussi. Non, on a été très touchés de voir l'accueil italien. Et puis c'était intéressant parce que c'est un film extrêmement européen qui parle de la relation franco-allemande. Donc c'était intéressant d'aller dans un terrain neutre, l'Italie, pour montrer le film pour la première mondiale.
C'est un terrain qui n'a pas toujours été très neutre.
Non, il n'a pas été très neutre pendant la guerre. Mais aujourd'hui.
J'entends bien. Donc, en vous entendant l'évoquer, ça me faisait sourire. Ça vous rassure, François Ozon, de voir qu'un de vos films a une dimension universelle et finalement touche le public, quelle que soit sa nationalité ?
Oui, j'étais très surpris en fait en discutant avec les journalistes internationaux, à Venise, de voir à quel point les gens ont parlé de politique et m'ont parlé de la situation de la France, de ce qui se passait aujourd'hui par rapport à la montée des nationalismes, par rapport à tous les politiques qui parlent du retour des frontières, la crise de l'identité nationale. Je me suis rendu compte que parler de 1919, pour beaucoup de gens, c'était aussi une manière de parler d'aujourd'hui. On n'en avait pas vraiment conscience en faisant le film, même si on sentait qu'il y avait des thèmes qui pouvaient rappeler ce qui se passe aujourd'hui, mais pas à ce point-là.
Et puis je précise que le film est allé à Venise, il va aller à Toronto, il va aller à Telluride, je crois aussi, donc il est demandé dans pas mal de festivals. Et si je puis me permettre, puisque dans quelques semaines, quelques jours, la France va décider quel sera son candidat pour les Oscars, je pense que France ferait un candidat assez fantastique.
Et ben voilà, vous êtes permis. Dites donc, vous avez fait allemand seconde langue, vous, parce que c'est incroyable. C'est vous qui parlez allemand dans le film.
Ah oui, tout à fait, oui. Mais non, pas du tout allemand seconde langue. Au
première
contraire, au contraire, pas du tout d'allemand. Donc, je partais vraiment de zéro. C'était un des gros défis du film, l'allemand. Et puis le violon, voilà, il y avait quelques vrais challenges que François Ozon proposait avec ce rôle d'Adrien dans France. Et en même temps, c'est deux choses, la musique et la langue, ça faisait partie de l'authenticité de ce film. Donc c'était des challenges inévitables et que j'ai pris avec grand plaisir.
Je peux vous dire que c'est extrêmement réussi, Pierre Ninet. Stéphane, c'est à vous.
Alors, Franz, il faut dire qui c'est quand même. Hein. Franz, oui. C'était le fiancé d'Anna, jeune couple allemand amoureux des années 14-18 que la guerre a séparé pour toujours, puisque lui est mort au front et qu'elle le pleure depuis. Un jour, Anna va au cimetière et elle remarque un autre jeune homme qui verse des larmes sur la tombe de Franz. C'est Adrien, donc joué par Pierre Ninet, qui se présente comme l'ami de Franz et qui dit l'avoir connu à Paris avant le conflit. Pendant leurs études, l'arrivée du français dans cette petite ville allemande après la défaite va évidemment enflammer les passions. Extrait.
Vous veniez souvent ici ?
C'est ici que Franz m'a demandé ma main. C'était avant son départ pour la guerre.
Et comment vous êtes-vous connu ?
Il ne vous a pas raconté ?
Non.
C'était dans une librairie pendant nos études. Je cherchais un livre de poèmes français. Il aurait pu vous parler de moi. J'étais jalouse de ses études en France. Elle m'avait promis que nous irions là-bas en voyage de noces. Qu'elle me ferait découvrir Paris.
J'ai chaud. Vous n'avez pas envie de vous baigner ?
Nous n'avons pas des costumes de bain.
Ah, mais peu importe. Peu importe, allons-y. Allez.
Alors, qui est vraiment Adrien ? Qui était vraiment Franz ? Réponse qui se trouve au cœur du premier grand film français de cette rentrée 2016. Alors, c'est du Ozon, donc la vérité est beaucoup moins claire qu'il n'y paraît. Sensuel, douloureux, bouleversant, glaçant. Aussi, votre film, François, parle du mensonge, du pardon, de la culpabilité et d'amour porté par un couple vraiment formidable, un vrai couple de cinéma. Paula Beer, actrice allemande, épatant, vous avez vraiment le pif pour aller chercher les actrices, vous. Elle joue Anna. Et puis vous, Pierre, un registre que vous n'aviez pas encore abordé. On est dans le romantisme tragique, ça vous va très très bien.
Ben, merci.
La moustache aussi, lui va.
La moustache, me va très bien. Ouais, j'étais content de faire quelque chose, effectivement, où j'avais l'impression qu'il y avait un nouveau défi dans le rôle. En même temps, je renouais avec des amours de théâtre qui ont été les premiers textes que j'ai joués. Je pense à la violence, au romantisme, en même temps, des textes de Frank Wedekind, qui était allemand, et que j'avais étudié en cours de théâtre. Et donc, il y avait quelque chose d'assez familier, d'assez évident quand j'ai lu le scénario. avec le personnage. Et en même temps, oui, chaque jour, on faisait quelque chose de nouveau. Et puis le fait de travailler avec François Ozon, c'est toujours très vivant sur le plateau. C'est une matière très vivante, même l'apparence, on va dire que l'apparent classicisme du film était toujours brisé, remis en question par le travail de François Ozon qui est super. Moi, j'ai découvert sa direction d'acteur, c'était absolument génial. Et avec Paula aussi, je me suis senti très chanceux de jouer avec elle.
Alors, vous parlez de théâtre. On précise que le film est adapté d'une pièce de Maurice Rostand, fin des années 1910. Elle a été adaptée au cinéma par Lubitsch en 32. François, qu'est-ce qui rend cette histoire si moderne, là, aujourd'hui, en 2016?
C'est juste après la Première Guerre mondiale, c'est après le traité de Versailles, on connaît l'humiliation des Allemands et on sait que la situation va être un peu le terreau du nazisme. Donc c'était intéressant de faire un film pour une fois du point de vue des Allemands, parce qu'il y a beaucoup de films sur 14-18 du côté français. Et moi, ça m'intéressait d'aller voir de l'autre côté ce qui s'était passé, être du côté de cette jeune fille et être du côté de ceux qui ont perdu la guerre. C'était un petit peu l'enjeu du film. De même, c'était aussi l'enjeu de garder la langue allemande et de jouer avec la langue française et la langue allemande, parce que c'est vraiment le sujet du film. C'est un film qui parle de deux pays, deux cultures qui s'opposent, deux frères ennemis. Et moi, c'était important de montrer dans ce film que ce qui pouvait réunir ces deux pays, c'est la culture, c'est la langue, c'est la connaissance de l'autre. C'est pour ça que la musique, la poésie, la peinture sont très importants dans le film.
Alors, au début du film, on se dit, quand on voit les deux personnages principaux, ils ont aimé le même homme. Et oui. Puis, comme d'habitude, vous nous baladez tout le temps.
Il y a toujours une part de vérité dans tout mensonge, puisque le mensonge, c'est un désir qui s'exprime.
Oui, mais ça ne suffit pas, je veux bien vous alliez un peu plus loin, François Ozon.
Non, c'est vrai que ça m'intéressait de mettre le spectateur dans la position de cette jeune fille allemande et de se poser les mêmes questions, elle, de partager toutes ses interrogations, toute sa confusion des sentiments, comme dit Stéphane Zweig. Voilà, cette jeune fille se retrouve face à un jeune Français qui est un peu comme le prince charmant. Il débarque pour prendre la place de son fiancé, mais il cache un secret, mais finalement... Bon, voilà, il se passe des choses un peu compliquées après, mais c'est ça qui m'intéressait, c'était la complexité des sentiments et faire en sorte que le spectateur partage toutes ses émotions.
Alors, cette espèce d'obsession de notre époque, puisqu'on est en train de parler du mensonge et de la vérité, a attraqué justement cette vérité, notamment via les médias, les réseaux sociaux. Ça vous intéresse, ça vous obsède, vous qui êtes toutes deux présents sur Twitter, par exemple, je ne sais pas, Pierre Ninet?
Moi, je dirais que, oui, c'est sûr, on a affaire dans notre société à un flot d'images continues. Ce que je trouvais intéressant dans le film, c'est l'idée que ça va à l'encontre de cette culture de l'image vérité, de se dire que toute la journée, des chaînes d'information continues te disent que ce que tu vois est vrai. Dans le film de François, le spectateur est mis à une part très active, on va dire, dans le film, déjà parce qu'il y a beaucoup d'interprétations possibles, beaucoup d'ambiguïté. On est comme devant un tableau. D'ailleurs, la peinture a une place très importante dans le film. Donc, c'est un film assez sensoriel et voilà, où chacun peut se faire une idée différente. Et puis aussi l'idée que il faut remettre en question certaines images qu'on vous donne à voir. Ça, je trouve ça intéressant au cinéma de reposer cette question-là, surtout aujourd'hui dans notre société, oui.
On précise, parce qu'on ne l'a pas dit, et c'est important, que le film a été tourné en noir et blanc, mis à part quelques petites touches de couleur qui arrivent à des moments extrêmement précis et pas gratuitement, pas par hasard. Le noir et blanc, François, ça renvoie à un de vos maîtres. Vous êtes un grand admirateur d'Hitchcock.
Il a tourné aussi en couleur, Hitchcock. Il a commencé en noir et blanc.
Très grands films en noir et blanc. Ça vous amusait d'aborder ce format-là?
En fait, c'était pas prévu. Au début, le film devait être en couleur. Et très vite, en faisant les repérages, en trouvant tous les décors qu'on a trouvés dans l'ex-Allemagne de l'Est, parce qu'en fait, il y a beaucoup de décors en ex-Allemagne de l'Est qui sont restés dans leur jus. Les communistes n'avaient pas d'argent pour rénover, au contraire de l'Allemagne de l'Ouest. Du coup, les décors étaient vraiment très beaux, mais un peu trop colorés. Des fois, ça faisait un peu Walt Disney, les rues. Donc, en me baladant dans la petite ville où on a tourné, en Saxe, à Quedlinburg, une fois, j'ai vu des photos de la petite ville en 1900 et je me suis dit, c'est incroyable, rien n'a changé en fait. Tout est pareil, sauf qu'en noir et blanc, ça donnait tout d'un coup une patine et un réalisme beaucoup plus fort. Et donc, j'ai décidé de passer le film en noir et blanc. Et puis, c'était aussi parce que toute notre mémoire de la guerre, à cause des archives, à cause de tout ce qu'on a vu, est en noir et blanc. Et qu'on se représente toujours 14-18 en noir et blanc. On pense que les gens ne connaissaient pas la couleur à l'époque. C'était un moyen d'immersion, en fait, pour le spectateur, pour rendre cette histoire plus véridique et qu'on s'imprègne vraiment dans cette époque.
Avec, je le dis à nos auditeurs, des moments absolument absolument magnifique, où l'on passe de l'un à l'autre dans une même scène avec des mouvements de caméra qui sont vraiment d'une grande beauté. Alors nous allons marquer une pause dans ce Laissez-vous tenter, consacré à la sortie après-demain, je vous le rappelle, du film France de François Ozon, avec notamment Pierre Ninet. Avant cela, une question posée par Stéphane pour vous permettre de gagner des places et de découvrir vous aussi le film.
France se déroule après une guerre mondiale. Est-ce qu'il s'agit de la première ou de la seconde?
On est assez gentil, oui, réponse au 32-10. Et maintenant, les audiences de notre week-end télévisé avec Isabelle Morini-Bosque et Médiamétrie. Isabelle.
Oh, ça va être vite fait. Vendredi, Koh-Lanta frôle les 6 millions de fidèles et rassemble toujours plus de 60% des très jeunes devant les petits meurtres d'Agatha Christie en grande forme sur les deux. Samedi, The Voice Kids, la une toujours, est en tête et trouve sa voix avec 600 000 téléspectateurs de plus que la semaine précédente, là aussi devant une fiction, celle de la 3. Et hier, 6 300 000 curieux ont apprécié le barbecue sur TF1, toujours, j'en étais. Qu'est-ce qu'on signale d'autre? Eh bien, qu'on n'est pas couché à retrouver tous ces fidèles sur la 2 en deuxième partie de soirée samedi. Et petit B, le score injuste de Thalassa en dessous des 2 millions de fidèles vendredi soir. Cette remarquable spéciale sur une Méditerranée menacée avec le coup de gueule de Ségolène Royal méritait de faire beaucoup plus de vagues, si j'ose dire.
Une pause et on retrouve nos invités jusqu'à 9h30. Pierre Ninet et François Ozon. France, leur film sort mercredi.
RTL Matin.
Laissez-vous tenter.
Avec Yves Calvi.
9h14 sur RTL, très bonne journée à tous. François Ozon et Pierre Ninet sont donc les invités de ce Laissez-vous tenter. Le premier à réaliser le film France, dans lequel joue le second, à découvrir mercredi 7 septembre au cinéma. Alors parlons de l'Allemagne. François Ozon, vous montrez dans le film un pays humilié par la défaite de 1918, un peuple fier, capable...
1919,
vous avez raison. Un peuple fier, capable aussi de pardonner. Vous avez tourné en Allemagne, c'est un pays qui vous attirait, pour lequel vous avez une fascination, une curiosité.
En fait, c'est le premier pays que j'ai visité quand j'étais enfant et j'en ai gardé un souvenir un peu émerveillé. Vous savez, quand on est enfant, on idéalise un peu tout. Oui. Donc, je suis allé très jeune dans une famille allemande et je les ai trouvés beaucoup plus sympas que ma famille à moi. J'ai trouvé que l'Allemagne était beaucoup plus belle. Je trouvais qu'on mangeait mieux en Allemagne.
C'est drôle.
J'ai changé un petit peu avec le temps.
Oui,
mais vous savez, quand on est enfant, on a mauvais goût. Quand on est enfant, on a souvent mauvais goût.
Très mauvais goût.
Voilà. Donc, j'aimais beaucoup le fait de manger de la charcuterie.
Vous étiez en Bavière ou quoi? Parce que...
J'ai été en Bavière, à Garmisch-Partenkirchen.
C'est sûr que c'est mieux. Oui.
Et j'étais aussi à Hambourg. Voilà. J'ai connu le nord et le sud de l'Allemagne. Et c'est vrai que j'étais fasciné par la langue allemande. Donc j'ai gardé cette nostalgie. J'étais un peu comme le personnage d'Adrien qui arrive dans la famille Hofmeister dans le film et qui se sent très, très, très bien accueilli.
Comment vous avez vécu quelle est votre relation avec ce pays, avec l'Allemagne, vous, Pierre Ninet? Vous vous êtes senti bien dans ce personnage et
dans ce
lieu de vie?
Oui, j'aimais beaucoup l'idée qui était le cœur du film, de cette rencontre, de ces personnages qui, motivés par l'amour, par l'espoir, par l'envie de faire du bien de différentes manières, vont traverser cette frontière, à un moment où, évidemment, il faut mettre la peur de côté aussi pour passer cette frontière après la Première Guerre mondiale. Et puis cette rencontre des langues, on en parlait tout à l'heure, mais je trouvais qu'il y avait quelque chose de dur en même temps, d'arriver effectivement, le personnage d'Adrien arrive dans cette petite ville allemande, il connaît pas la culture, il connaît pas cette langue, il est regardé de travers. Et en même temps, il y a quelque chose dans la rencontre avec le personnage d'Anna, joué par Paul Haber, qui est extraordinaire dans le film. En plus, il y a quelque chose avec cette langue de très érotique. Ce qui va à l'encontre du cliché qu'on a de l'allemand, de se dire... je trouve que toute barrière de la langue est érotique potentiellement.
Oui. Et un mystère. Bien sûr,
parce qu'il y a un mystère et qu'il y a un exotisme et qu'il y a de l'inconnu et que l'inconnu ça fait peur, mais en même temps c'est très excitant. Donc, et puis dans les films de François Ozon, il a l'habitude de filmer des couples de manière, même si le film peut paraître assez chaste de certains points de vue, moi je trouve qu'il y a quelque chose d'assez érotique dans cette relation.
Il n'y avait pas tant que ça. Il ne l'est pas tant que ça, je vous le confirme.
Oui, voilà. mais voilà, je trouve que ce jeu entre les deux langues, ce jeu de miroir entre les deux pays, entre la France, à un moment, il y a une scène très forte avec la Marseillaise, par exemple, puis l'hymne allemand aussi. Je trouve que ce jeu de miroir entre les deux cultures, les deux langues, les deux pays est très fort.
Pierre, on va parler de 2016, parce que c'est encore une année qui va compter dans votre parcours. Il y a eu le très joli succès de Five, qui était une formidable comédie qu'on a vue au printemps. Il va y avoir dans quelques semaines l'Odyssée, film sur le commandant Cousteau. Vous jouez un des fils Cousteau. Là, il y a France, le film de François. Vous avez 27 ans. Moi, j'ai l'impression que il y a un appétit, il y a une curiosité de votre part, ça c'est pas mal, mais aussi il y a un appétit et une curiosité des réalisateurs. On vous propose, en fait, on le disait au début, hein, constamment des choses différentes. C'est assez rare dans le parcours d'un comédien quand même.
Oui, je me sens très très chanceux de recevoir des scénarios et des rôles très différents dans des ambiances très différentes. Moi j'ai commencé au théâtre, j'ai eu la chance de jouer des comédies, des tragédies, de travailler beaucoup de choses, que ce soit au cours Florent, au conservatoire ou même à la Comédie Française. Donc c'est vrai que mon goût naturel, ma curiosité naturelle m'amène à faire des choses différentes. J'aime des acteurs comme Mathieu Amalric, comme Matt Damon, comme Christian Bale, qui sont des gens qui font des choses très différentes. Donc inconsciemment, j'ai cette culture, je pense aussi. Et oui, je me sens chanceux, je me sens très chanceux.
François, c'est pareil, parce que quand on regarde votre filmographie, il y a pas un... Alors, il y a des passerelles, il y a des thèmes que l'on retrouve, mais dans le style, qu'on va de Angel à Huit Femmes, à Sous le Sable, à France...
C'est même perturbant, pour tout dire.
Oui, c'est ça. C'est-à-dire qu'on a l'impression que non seulement vous pouvez tout faire, et puis que tout aussi vous intéresse. Mais il y a du risque à chaque fois, quand même.
Oui, mais s'il n'y a pas de risque, il n'y a pas de désir. Donc, moi, j'ai besoin à chaque fois d'expérimenter quelque chose, essayer d'aller dans une nouvelle direction. Mais je dirais que la forme du film vient vraiment de l'histoire que je raconte. C'est vraiment l'histoire qui dicte sa mise en scène et la forme et le genre du film.
C'est vrai que le prochain, c'est une sorte de thriller un peu costaud.
Bah, comme disait Pierre, c'est vrai que je me suis rendu compte que Franz, c'était quand même un film très chaste par rapport à mes films précédents. Donc j'ai envie d'aller vers quelque chose d'un peu plus sexué, un peu plus érotique.
Ah. Mais voilà. Je reviens sur justement les styles si différents apparemment de vos différents films. D'où vient chez vous l'envie de raconter une histoire? À quel moment vous dites « celle-là, j'ai envie de la raconter » ?
C'est quelque chose qui s'impose, en fait. C'est une idée qui germe en vous et tout d'un coup, vous y repensez toute la journée, vous rêvez de cette histoire. Voilà, c'est quelque chose qui vous prend. Et c'est vrai qu'il faut être sûr de son désir parce que faire un film, ça prend 2-3 ans. C'est une longue maturation. Donc, voilà, mais moi, je fais confiance à mon inconscient. Je me force pas tous les jours à me mettre devant une table en me disant qu'est-ce que je vais faire. Non, je laisse les histoires venir. Et ça, c'est une histoire qui a infusé assez longtemps en France. Depuis longtemps, j'avais envie de faire un film sur le mensonge et les secrets en période dramatique pour montrer le côté bienveillant qu'il peut y avoir des fois dans le fait de faire des mensonges. Et donc, voilà, ça a pris son temps. Et puis un jour, ça immerge.
On évoquait Paul Haber, moi, que j'ai découvert dans ce film. Qui est extraordinaire. Charlotte Rampling, Catherine Deneuve, Fanny Ardant, Isabelle Huppert ou Isabelle Carré. Vos films sont très souvent habités par des caractères féminins extrêmement forts.
C'est vrai que les femmes sont fortes. J'ai l'impression que les femmes sont souvent des héroïnes plus intéressantes parce que je pense que les femmes doivent se battre dans notre société. En 1919, d'autant plus, rien n'est acquis pour elles à leur naissance, alors que les hommes, ils ont tout sur un plateau. Mmh. Et ça m'intéressait dans ce film de montrer le parallèle entre deux victimes de la guerre, cette jeune fille allemande et ce jeune français. Et on voit que cette jeune fille, tout au long du film, se bat, traverse des moments très difficiles, des moments de renoncement. Mais finalement, il y a une forme d'émancipation dans son trajet, alors que le personnage d'Adrien, qui a vécu la guerre, lui, dans sa propre chair, est beaucoup plus embourbé, je dirais, dans cette histoire, et met plus de temps à trouver son salut. On espère qu'il le trouvera dans France 2, mais dans le 1, il n'est pas très en forme, Pierre Ninet.
Pierre Ninet et François Ozon sont avec nous jusqu'à 9h30 avant la sortie mercredi du film Franz. Dans un instant, on quitte le grand écran pour le petit. Isabelle Morini-Bosque nous dit tout sur la rentrée de France Télévisions.
RTL Matin.
Laissez-vous tenter.
Yves Calvi jusqu'à
9h30. 9h22. Alors, j'ignore si vous suivez l'actualité télévisée tous les deux, mais on a beaucoup évoqué avant les vacances la décision de France 2 de chambouler ces fameuses après-midi. C'est aujourd'hui que cette décision, en fait, prend effet à l'écran avec 4 nouvelles émissions dites de talk show. C'est un véritable pari, Isabelle.
Ah oui, et sacrément risqué parce que l'ancienne grille est complètement gommée. Et comme c'est le cas après tout gommage, la chaîne fait donc peau neuve de 14h à 18h45, horaire après lequel on retrouve Nagui et son jeu N'oubliez pas les paroles. Alors, c'est risqué parce que déjà, le public de la 2 veut le changement sans être sûr de le vouloir vraiment. Mm-hmm. C'est toujours la fameuse quadrature du cercle. Oui. Voilà. Et puis surtout, un tel bouleversement que des trucs de parlotte, entre guillemets, et de reportage, bien sûr. C'est pas gagné. Ça n'affole pourtant pas plus que ça le patron de la 2, Vincent Mellet.
Toute nouveauté est un risque, toute nouveauté est un espoir. Justement, on va revisiter les talk shows. Il y en a un mandat qui sera modernisé. Tomato Rouge va plutôt animer un magazine d'infos avec une vraie volonté de désacraliser l'information. Stéphane Bern, visite privée, ça sera du reportage patrimonial et des quelques invités aussi. Et l'émission de Frédéric Lopez, c'est un peu le mariage entre toute une histoire et la parenthèse inattendue. Au contraire de ce qui se dit, on prend pas des risques inconsidérés et partout. Et c'est plutôt excitant de lancer des nouveautés. Le succès ou le non-succès, ça fait partie du métier. Et je la porte avec un certain calme.
Ça, c'est vrai.
Alors, et l'après-midi commence avec l'ami des stars, hein, Frédéric Lopez.
Oui, alors on va remettre dans l'ordre ce que Vincent Mellet a donné dans le désordre. C'est effectivement Frédéric Lopez qui s'y colle en premier avec ce qu'il aime faire, des rencontres. Mmh. Aujourd'hui, il reçoit le porte-drapeau de la délégation des Jeux paralympiques, le tennisman multimédaillé Michael Jeremias, qui est formidable. Et puis Frédéric Lopez, du coup, nous donne un petit scoop au passage.
On m'a fait un grand honneur, puisqu'on m'a proposé d'être le parrain de cette équipe. Oui. Paralympique. Et j'ai accepté en pensant que j'allais partir avec vous à Rio. Et puis la vie a fait que le patron de France 2 m'a proposé de faire une émission tous les jours et donner rendez-vous aux téléspectateurs à 14h. Donc je ne peux pas partir.
Aucun des deux de vous deux n'avait fait la parenthèse inattendue.
Non.
Vous auriez aimé?
Je trouve qu'il y a des... Voilà, voilà, moi je partais sur une piste beaucoup plus diplomatique.
Mais non, finalement.
Non, moi je peux complètement me faire accrocher par certaines émissions où il y en a une autre, mais c'est celle où il voyage, c'est quoi?
Rendez-vous
Ah, moi je pensais que c'était inconnu. Rendez-vous inconnu dont vous parliez. Je connais pas l'autre émission.
Il y en a des pas mal, hein, des rendez-vous interinconnus.
Il passait le week-end avec un plateau bigarré, si vous voulez, de personnes
oui,
venant d'univers différents.
Ça, j'ai pas vu.
En tout cas... Ça, c'est donc le talk show testimonial. Le patrimonial, c'est celui de Stéphane Bern à 15h40, qui animait au quotidien Comment ça va bien, et qui va désormais organiser des visites privées. Et ça, on le sait, ça lui plaît.
J'ai adoré parler maquillage et coiffure pendant 7 ans. Mais peut-être que la nouvelle direction a trouvé que je savais faire autre chose, et notamment parler de patrimoine. J'ai envie que les gens réapprennent à aimer leur pays.
Alors, moi, j'adore ce générique très rythmé, ça me fait penser à 8 femmes, tiens, de vous. Et la première est atypique, puisque l'on part à la découverte des eaux. Il y en a quelques 300 en France. La première ménagerie datant de Louis XIV et Chantillon.
Mais Benjamin, c'est pour me faire plaisir que vous êtes allé à Lyon, au parc de la Tête d'Or. Vous savez que j'y suis né. Hein.
Vous êtes né dans le parc de la Tête d'Or?
Non, à la clinique du parc. Le parc est toujours ouvert.
Voilà, donc ensuite, cet après-midi, sur France 2, vers 15h40...
Si j'y ai bien compris, il y a aussi le transfuge de Canal+, hein, Thomas Touroud.
C'est cela. Mais à propos de Zo, après Stéphane Bern et ensuite la lionne du service public Amanda pour un talk show à l'américaine. Et puis après, effectivement, Thomas Touroud qui se sent comment au fait ?
Enthousiaste et impatient. Ce sera donc un magazine d'actualité en direct. C'est l'émission qui répond aux questions que tout le monde se pose. J'ai pas forcément tout compris de l'actualité. Expliquez-moi. On est dans un flot continu d'actu. Les chaînes d'info, les grands rendez-vous d'information, Internet, le web. On veut aller un petit peu à rebours et prendre le temps de donner les clés de compréhension à chacun.
Voilà, à suivre, oh là là, de très très près. Et si jamais vous avez encore soif de nouveautés, eh bien, le grand journal avec Je décode, première partie cryptée de 19h05 à 19h35, une seconde en clair de 19h50 à 20h20, et retour des guignols dans ce grand journal de 19h35 à 19h50, mais en crypté. Vous pouvez répéter?
On y sera, nous, ce soir.
Je vois vos yeux qui s'affolent.
On y sera, donc on va tester.
On va tester pour vous et on reviendra faire une chronique demain matin et on vous retrouve.
Je pense qu'on est dans la seconde partie, enfin, je sais pas.
Donc en clair.
J'espère qu'on est en clair.
Bienvenue pour vos commentaires et vos réactions. Dans un instant, on dit au revoir à Pierre Ninet et François Ozon à l'occasion de la sortie du film France mercredi sur tous les écrans.
RTL Matin.
Laissez-vous tenter.
Avec Yves Calvi.
Je cherchais ma question comme d'habitude, j'ai perdu. France, je reprends la question. France se déroule après une guerre mondiale. Est-ce la première ou la deuxième? Le réalisateur va donner la réponse.
La première guerre mondiale.
Voilà, le film sort, je le rappelle, mercredi. Pierre Ninet, François Ozon, merci beaucoup d'être venu nous présenter votre film.
Merci.
On a passé un excellent moment avec vous et on vous souhaite beaucoup, beaucoup de succès. On va retrouver tout de suite Julien Courbet.
Comment allez-vous?
Fort bien.
Moi, je me suis régalé ce matin en vous écoutant. Ouais. J'ai tout écouté, François Fillon, etc. Oui. Et vous qui décryptez tout et qui expliquez merveilleusement bien les choses, pouvez-vous m'expliquer cette phrase que je n'ai... Effectivement, je n'ai pas bien compris.
Vous êtes sûr de
on n'est jamais sûr de rien. Mais deux, il y a une chose dont je suis sûr. On n'est jamais sûr de rien, mais il y a une chose dont je suis sûr. Alors je me suis dit, je vais appeler Yves Calvi, parce que moi, ça m'a pris toute la matinée. J'ai même failli ne pas venir travailler.
Vous voulez que je vous décrypte le Fillon, c'est ça?
Non, mais comment on peut être sûr de rien et être sûr de quelque chose?
C'est un paradoxe que manie le responsable politique. Je ne saurais pas vous dire autre chose.
À demain pour en savoir plus. Vous avez la journée. Merci, mon Yves. Bonne journée.
Bonne émission.